Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidelech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et Chodesh Tov, puisque nous sommes le mois de Rosh Chodesh Kislev. Merci de nous suivre sur Radio Judaïka Strasbourg pour ce nouveau numéro du commentaire de la paracha de la semaine par Harold Avraham Veil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin qui est avec nous en ligne. Monsieur le grand rabbin, bonjour et Chodesh Tov.
Bonjour Chodesh Tov, Jean.
Nous lirons cette semaine la paracha de Toldot, l'allumage des bougies à 16h21 et la fin du Shabbat demain à 17h32. Les horaires sont valables pour Strasbourg et sa région. Cela nous permettra de suivre la deuxième mi-temps du match entre la France et le Danemark en Coupe du Monde de football. Comme chaque semaine, tout le vœu de Rafua Shelema à tous nos malades, un Shabbat Shalom particulier aux aînés et aux personnes âgées. Et je voudrais dédier cette émission à la mémoire de Madame Aïcha Selam, Zichron Olivraha, la veuve de Monsieur Meir Selam, Zichron Olivraha, et de Daniel Veil, Zichron Olivraha. Leur matzava aura lieu dimanche, donc on voulait leur dire un petit bonjour. Monsieur le grand rabbin, on démarre tout de suite avec le résumé de cette paracha Toldot.
Oui, alors le résumé de la paracha, on va dire trois grandes parties, Jean, pour faire simple, dans cette paracha. La première partie, c'est le début de la paracha avec la naissance des célèbres jumeaux de la Torah, Yaakov et Esav, des jumeaux très très différents, on le verra tout de suite. Donc je le rappelle, jumeaux du couple emblématique forme Rivka et Yitzhak Avinu, patriarche donc et matriarche du clan Israël, du peuple d'Israël. Au milieu de la paracha, nous parlerons d'une histoire assez étrange, le conflit, le fameux conflit des puits. Et donc on nous parlera d'un moment tout à fait particulier de la vie d'Yitzhak, qui, je le rappelle, Isaac est un personnage assez secret hein, dans la Torah, sur lequel on ne nous dit pas grand-chose, contrairement à Abraham, dont la vie est beaucoup plus étalée, beaucoup plus détaillée dans la Torah. Et puis, peut-être la partie la plus importante, ou en tout cas la plus marquante hein, de notre Sidra, c'est la bénédiction d'Yitzhak, la fameuse bénédiction d'Yitzhak, tant convoitée, et pour laquelle eh bien, Yaakov, hein, aidé par sa maman Rivka, va utiliser un subterfuge pour la subtiliser à son frère Esav, à qui cette bénédiction était promise. Et la fin de la paracha se termine par la réaction absolument terrible et très très violente, et d'une certaine manière légitime même, hein, de la part d'Esav, qui est extrêmement déçu et forcément très énervé contre son frère Yaakov lorsqu'il apprend qu'on a profité de son absence alors qu'il était allé chasser, hein, pour tout simplement accomplir la volonté de son père. Donc c'est ce qu'il y a de plus terrible à la fin de cette paracha, c'est qu'il était dans un esprit de kibbud avaim, de respect absolu de la parole de ses parents. Et Esav donc décide d'annoncer sa vengeance prochaine à l'encontre de Yaakov. Et c'est donc de cette manière que va se terminer la paracha. Yaakov est exfiltré afin d'échapper à la vindicte de son frère Esav. Et c'est en quelque sorte l'introduction déjà de la paracha de la semaine prochaine, Vayetse, où on va nous raconter toutes les péripéties de Yaakov qui doit quitter en urgence le domicile familial.
Alors, dès le premier verset, pour revenir au début de la paracha, on réaffirme de façon claire et précise que Abraham a engendré Yitzhak. Pourquoi le rappeler? On le sait, on a l'histoire, on sait qu'il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Pourquoi la Torah, dès le début, raconte que Abraham ou Yitzhak est bien le fils d'Abraham?
Alors, deux réponses à cela, peut-être. Une première réponse qui est suscitée par le Midrash, hein, qui nous rappelle que la naissance d'Yitzhak avait engendré une certaine forme de jalousie auprès des populations environnantes, surtout ceux qui ne cherchaient pas de bien à Abraham, et que, bien pour ce faire, Dieu a fait en sorte qu'Yitzhak, au moment de sa naissance, ressemble trait pour trait à Abraham, de manière à ce qu'on ne puisse pas attribuer cet enfant hein, qu'avait enfanté Sarah à Avimelech, notamment comme certains le prétendaient, hein, on se rappelle de cette histoire. Ouais. là aussi tout à fait particulière, qui est racontée par la Torah, lorsque Abimélec donc s'était emparé de Sarah, et donc certains voulaient dire qu'en réalité cet enfant, hein, eu égard à l'âge extrêmement avancé d'Abraham, ne pouvait pas être d'Abraham et qu'il était d'Abimélec. Donc c'était pour fermer un petit peu la bouche, hein, à tous ces railleurs et tous ces détracteurs d'Abraham. Mais il y a une deuxième réponse qui justifie un petit peu cette redondance, hein, dans ce premier verset, où on nous dit qu'à la fois Yitzhak était le fils d'Abraham et qu'Abraham avait engendré Yitzhak, pour nous dire qu'il ne suffit pas pour mériter le titre de père d'être simplement un géniteur. Voilà, il y a une dimension biologique, bien sûr. Faire un enfant, c'est pas très très compliqué. Bien sûr, il faut un peu de siyata d'Ishmaïa, hein. Il faut l'intervention de Dieu. Il y a trois acteurs, hein, pour faire un enfant. Il faut l'intervention de Dieu pour que biologiquement ça puisse fonctionner, mais ça ne fait pas encore de nous un père. Pour être un père, il faut être capable de s'engager dans l'éducation de ses enfants, il faut être capable de transmettre quelque chose, il faut qu'il y ait une dimension spirituelle qui soit très très poussée, et c'est ce que la Torah veut nous dire à propos de la manière dont Abraham a su s'investir en tant que père. Il a attendu cet enfant pendant très très longtemps, il aurait pu se reposer uniquement sur cette naissance, qui était déjà un miracle incroyable d'un point de vue biologique, mais pas du tout. Abraham a cherché absolument à faire en sorte que ce fils Yitzhak ne soit pas simplement son fils biologique, mais également son héritier spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il lui a transmis tout son savoir, toute sa sagesse, toute sa Torah, même si la Torah n'avait pas encore été donnée, mais Abraham l'a vivé intrinsèquement, c'est ce qu'il a voulu transmettre à son fils. Et en cela, la Torah insiste pour nous dire qu'il était véritablement celui qui avait engendré Yitzhak.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que toutes nos matriarches, on le verra, hein, encore un peu plus tard, en l'occurrence Rivka, sont stériles. Alors, l'explication donnée en général, c'est pour dire que Dieu aspire aux prières des justes. Il n'y a pas une autre explication plus, différente de cette explication, comme quoi Dieu aspire à la prière des justes.
Bon. Alors, cette explication est déjà très satisfaisante en soi. Effectivement, je vois que ça vous fait rire, Georges, mais effectivement, pourquoi est-ce que je dis qu'elle est satisfaisante? Parce que le fait que Dieu aspire à une prière qui soit, on va dire, la plus profonde possible, la plus sincère. Il ne peut pas y avoir de prière plus intense et plus profonde que lorsque justement une femme est privée de cette possibilité d'enfanter, et d'enfanter pas simplement pour satisfaire son besoin personnel de maternité, mais parce que lorsque nous parlons des matriarches, ou lorsque nous parlons des patriarches, eh bien ce sont de grands personnages qui ont compris que l'avenir du peuple d'Israël passe par eux. Donc c'est ce qui génère une frustration, au-delà encore une fois de la problématique vraiment
personnelle. Là, il faut souffrir.
De la douleur. Voilà, donc ça c'est ce qui peut expliquer déjà cette prière. Une deuxième explication, hein, qui est peut-être un peu plus personnelle, c'est tout simplement que certaines choses dans l'histoire prennent du temps. Elles prennent un temps, et que la stérilité justifierait la stérilité de ces matriarches, de ces patriarches. Hein, parfois, on le voit que c'était le cas pour Abraham et Sarah, où tous les deux étaient dans l'impossibilité d'avoir des enfants, aussi bien Abraham que Sarah, d'un point de vue personnel. Eh bien, il y a certains grands personnages de l'histoire qui, justement, eu égard à leur grandeur et à ce qu'ils vont apporter, ne peuvent pas arriver tout de suite sur la scène de l'histoire. Cela prend du temps. Ce temps, c'est un temps de préparation spirituelle, de préparation tout simplement de l'histoire pour pouvoir accueillir ces grands personnages. Et ça explique sans doute pourquoi, en ce qui concerne bien nos patriarches, nos matriarches, en tout cas les premiers, il y a eu un temps d'attente avant que l'histoire ne puisse les accueillir.
Alors, Rivka engendre des jumeaux. Ils ne se ressemblent pas du tout, comme normalement les jumeaux, ni physiquement, ni spirituellement. J'ai envie de dire, Monsieur Grand Rabbin, quelles sont les principales différences entre Esav et Yaakov dès le début de leur naissance, on va dire?
Alors, la principale différence, Jean, se manifeste très très tôt dans le texte, hein, puisque dès le début de la Sidra, la Torah nous annonce « Vaitrotsatsu Abanim Bekirba » que les enfants se sont agités en son sein, hein, ce qui laisse penser qu'il y avait déjà des appétences très très différentes, comme d'ailleurs va nous le dire le Midrash. Et c'est ce qui d'ailleurs suscite l'interrogation de Rivka, qui va s'adresser directement à Dieu pour comprendre d'où provient quel est le sens de cette agitation. Le Midrash nous dit que lorsque Rivka passait à proximité d'une maison d'idolâtrie, eh bien Esav cherchait à sortir. Lorsqu'au contraire elle passait à côté d'une maison d'études, c'est Yaakov qui cherchait à sortir. Donc tout ceci pose un certain nombre de questions, on l'a dit, par rapport à bien des choix qui ont l'air de se dessiner déjà très très tôt, avant même que ceux qui sont encore simplement des fœtus à ce moment-là, ne soient habités de ce que l'on appelle traditionnellement le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Passons et intéressons-nous à leur naissance, qui intervient tout de suite après dans le texte. Et là, on remarque des différences physiques. Vous me parliez de différences, Jean, il y a des différences spirituelles, il y a des différences physiques. Et les différences physiques, qui on va le voir, traduisent là aussi des différences spirituelles au niveau de la personnalité. Alors Esav, comme son nom l'indique, Assouille, c'est quelqu'un qui est fait d'un point de vue matériel. Esav est déjà un homme parfaitement, enfin qui a une grande maturité physique, et le texte nous le dit, il est poilu, il sort tout rouge, et il a presque l'apparence d'un adulte déjà lorsqu'il sort, ce qui n'est absolument pas le cas de Yaakov, qui lui au contraire n'a pas cette maturité physique, qui est glabre, et ce qui traduit une appétence pour Yaakov beaucoup plus tournée vers la spiritualité. Le fait qu'Esav soit déjà d'un point de vue physique extrêmement mature va chez lui traduire une volonté, on va dire, de se lier beaucoup plus au monde matériel qu'au monde spirituel. Pourtant, et c'est important de le rappeler, de le souligner, les enfants vont avoir une éducation similaire, parce que les parents vont extrêmement s'investir, à la fois pour Yaakov et à la fois pour Esav, avec une éducation très très poussée à la maison, qu'on peut imaginer à la fois religieuse et à la fois une éducation, en tout cas, de valeur, hein, extrêmement forte, mais pour autant, très rapidement, et dès l'âge de la bar mitzvah, chacun va véritablement s'inscrire dans la voie qui semblait déjà être la sienne des années auparavant.
Alors, on va arriver à un des événements aussi de cette paracha, avant d'arriver évidemment à la bénédiction de Yitzhak pour Yaakov, c'est la vente des droits d'aînesse qui a lieu le jour du décès d'Abraham. Et dans le texte, on dit que, Yaakov préparait le repas traditionnel des endeuillés et ça, vous revenez de la chasse, je dirais, comme d'habitude. Et là, les commentaires sont très, très, très critiques vis-à-vis des Saves. On lui aurait pu donner une deuxième chance.
Ben effectivement, la problématique là des Saves, dans un jour aussi particulier que celui de la disparition d'Abraham, il faut bien imaginer, c'est le pilier de la famille qui quitte ce monde ce jour-là. Pas besoin de rappeler qui était Abraham, on a beaucoup évoqué sa personnalité lors des dernières émissions. Et cet événement-là aurait dû être un événement extrêmement marquant pour Esav, qui a eu la chance donc de connaître son grand-père, qui a eu la chance de pouvoir s'imprégner de ses valeurs. Il faut imaginer un grand-père qui, à l'instar de son fils, Yitzhak, était un grand-père qui était entièrement dans la transmission. D'ailleurs, rappelons que les caractères d'Yitzhak et d'Abraham étaient très différents. Yitzhak était un personnage plutôt froid et vraiment axé sur une certaine rigueur, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de son rapport à l'autre. Abraham, lui, c'est un personnage affable, c'est un personnage très chaleureux, et donc on peut imaginer cette chaleur que le grand-père a su apporter également à ses petits-enfants dans l'éducation. Pour autant, Esav n'a pas du tout l'air de tenir compte de la disparition de son grand-père. Il rentre, tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir se nourrir, de pouvoir manger, et il a l'air de balayer finalement d'un revers de main ce moment, qui est un moment en réalité qui aurait dû le marquer profondément, qui aurait dû peut-être l'amener à repenser la vie, qui aurait dû le remettre en question. Et je crois qu'à ce moment-là, Esav vient définitivement finalement nous montrer au lecteur en tout cas quel est son véritable visage et la considération qu'il a pour l'histoire familiale et la considération qu'il a tout simplement pour le fait qu'il puisse être candidat potentiel à la succession d'Abraham. À ce moment-là, qu'il n'est absolument pas intéressé par le fait de reprendre ce rôle, et donc que ce rôle, de facto, doit être dévolu à Yaakov.
Alors, on va passer rapidement sur l'histoire qui se répète un peu de l'exil de Yaakov et de Rivka. On va passer également sur le départ de Yaakov de l'endroit où il est. Et on va arriver à une histoire qui peut paraître un peu banale. C'est l'histoire des puits. Nos sages nous font remarquer que finalement, l'histoire des puits n'est pas une histoire banale, mais elle est un peu prémonitoire d'une histoire avec des bêtes à Migdash. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Alors effectivement, vous avez raison de dire, Jean, que cette histoire des puits paraît anecdotique. Parce que, et je le disais tout à l'heure, on nous dit très peu de choses de la vie d'Yitzhak. Donc on est surpris que lorsque la Torah prenne le temps de nous donner quelques informations sur la vie d'Yitzhak. Elle s'intéresse à cette histoire depuis, alors qu'il aurait été, a priori, beaucoup plus pertinent de nous parler de certains autres aspects de la vie d'Yitzhak. Mais vous l'avez dit, d'après certains de nos commentateurs, notamment le Ramban, cette histoire des puits, en réalité, il ne faut pas la lire superficiellement. Il faut savoir la lire entre les lignes. Et vous avez fait allusion à ce commentaire du Ramban sur l'histoire des différents temples. Effectivement, le nom que l'on donne ici à ces différents puits, eh bien, raconte un petit peu l'histoire future du clan d'Israël. Maaseh Avot Siman Labanim, c'est une trame tout au long du livre de Bereshit. Les actes des pères sont des balises pour les enfants. Et l'histoire future commence déjà par s'écrire avec les actions et avec les anecdotes, avec les expériences de vie que vont vivre les Avot, que vont vivre les anciens. Et nous le voyons donc avec cette histoire de puits. Chaque puits, de par le nom qu'on va lui donner, vient un petit peu nous parler de l'histoire d'une époque du clan d'Israël. Alors la première difficulté, la première confrontation du peuple d'Israël aux Babyloniens et à la destruction donc de ce premier temple par Nabucodonosor, un terme beaucoup plus sévère pour parler du second puits qui fait référence à une histoire encore plus violente qui a été celle du second temple. Pas besoin de vous rappeler dans quelles conditions ce second temple a été détruit par les Romains, les effusions de sang, un exil absolument catastrophique pour le clan d'Israël. Et en revanche, le troisième puits, comme vous le savez, qui a donné un peu plus de respiration et de souffle à Yitzhak, qui s'appelle Rehovot. Rehovot, donc, évoque une certaine largesse, une certaine forme de sérénité, et qui fait référence au troisième temple, qui, lui, ne sera pas détruit et sera une source de répit pour l'ensemble du peuple d'Israël.
Alors, Monsieur Grand, on va arriver à l'événement de cette paracha. C'est évidemment la bénédiction par Ruth, on va en parler dans un instant, de Abraham, d'Yitzhak à Yaakov. On va raconter l'histoire, on n'a pas le temps, donc j'ai posé des questions qui me sont arrivées et qui sont des questions relativement simples, mais vous allez voir que il y a des questions qui m'ont intéressé. Première chose, dans l'histoire, on voit que c'est Rivka qui parle à Yaakov, et dans le texte, on a l'impression que Yaakov est encore un petit enfant de 10 ans, 12 ans. Pourtant, là, il a 40 ans. C'est vraiment du kibbutz avaim, ça, d'écouter sa mère quand elle parle.
Puisque vous me parlez de kibbutz avaim, genre de respect des parents, permettez-moi de rappeler que le kibbutz avaim est présent tout au long de notre sidra, tout au long de notre paracha. Et ça, nous le savons, malgré toutes ses mauvaises facettes, est un exemple de kibbutz avaim. C'est d'ailleurs de cette manière qu'il va réussir en quelque sorte à tromper son père. Il a toujours été un enfant modèle dans sa manière de servir, d'écouter ses parents. Et lorsqu'Yitzhak lui demande de partir à la chasse et de lui préparer un plat avant de le bénir, Yitzhak cherche à mettre ce kibbutz avaim à l'épreuve. Il tient absolument à faire comprendre à son fils que pour recevoir, pour intégrer la bracha de son père, eh bien, il doit être capable d'être en connexion avec lui.
Oui, mais là, Jacob écoute sa mère, il a 40 ans, je veux dire, à 40, 45 ans, on n'écoute pas encore sa mère quand elle demande de faire quelque chose.
À 40, alors je vous rassure, tout à fait, Jean, à 40 ou 45 ans, on écoute encore sa maman et on l'écoute surtout, Jean, lorsqu'on est à un véritable dilemme, ce qui est le cas ici de Jacob. Jacob, lui, n'a pas la prophétie de Rivka. Et donc Yaakov a besoin d'un petit coup de pouce ici de sa maman pour aller à l'encontre. C'est une épreuve terrible pour Yaakov. Il doit aller à l'encontre de ce que sont ses valeurs, des valeurs de vérité absolue. Rappelons que Yaakov est toujours associé dans notre tradition à ce qu'on appelle le Emet, la vérité absolue. Et là, on va lui demander de faire quelque chose qui s'écarte un petit peu de cette vérité absolue. C'est la raison pour laquelle, sans ce coup de pouce de sa maman...
Alors, vous l'avez dit, monsieur le grand rabbin, à l'instant même, c'est sa maman... qui fait la ruse. Est-ce que on peut peut-être dire que pour un sujet important comme ça, utiliser la ruse, c'est un peu, on va dire, un peu gênant, non ?
C'est très gênant. C'est très gênant. Et Jean, vous avez parfaitement, là aussi, raison de rappeler que tout ce sujet, toute cette dernière partie de la Sidra, qui nous parle de cette ruse, est un sujet qui nous met très très mal à l'aise. Chaque année, lorsqu'on lit ce texte, eh bien, on se demande comment est-ce que Rivka a réussi à s'arranger en quelque sorte avec les bonnes manières ici pour arriver à ses fins. Sauf que, encore une fois, si Rivka n'avait pas parlé directement à son mari, à Yitzhak, de tout simplement ce qu'elle avait vu dans la prophétie, ce qui aurait pu régler le problème d'une manière, on va dire, beaucoup plus diplomatique, c'est tout simplement parce que Rivka n'en avait pas reçu l'autorisation. Et que les choses dans l'histoire devaient se passer de cette manière. Donc, alors, il y a quelque chose, finalement, il y a une double lecture ici de l'histoire, mais ce n'est pas par volonté, on va dire, d'utiliser la ruse et d'utiliser le subterfuge que Rivka agit de cette manière, mais tout simplement parce qu'à aucun moment elle n'avait reçu l'autorisation de pouvoir faire cette révélation.
Alors, deuxième chose, et ça qui était très étonnant, comment comprendre que Yitzhak, ou que Jacob, excusez-moi, qui est comme notre patriarche, puisse mentir à son père en face, c'est énorme.
Alors, pour répondre à cette question, encore une fois, je vous dirais que Yaakov comprend au moment où sa mère lui fait ses révélations. Yaakov est un homme très très intelligent.
Oui, mais il est devant son père, il lui dit « tu es mon fils », et ça, il répond « oui, je suis ton fils ». Et ça, c'est quand même extraordinaire que l'un des patriarches du peuple juif puisse mentir à son père de façon aussi effrontée, même si c'est pour un sujet très important.
Tout à fait. Plusieurs réponses. Déjà, je vous rappelle, Jean, que certains de nos commentateurs nous invitent à ponctuer le texte un petit peu différemment. Et finalement à placer les virgules de telle sorte que lorsque Yaakov présente les choses à son père Yitzhak, eh bien, il reste dans une certaine forme de vérité, finalement. Et même si les choses sont présentées de manière, là aussi, un petit peu alambiquée, on peut comprendre, dans une certaine lecture ici du passage, que Yaakov n'est pas littéralement menti à son père. Attends, sur le fait qu'il ait dû utiliser cette manière qui est, encore une fois, bien loin de la personnalité de Yaakov, qui est toujours dans une forme d'honnêteté absolue, qui, justement, par définition, Yaakov ne dit pas les choses de manière alambiquée. Il les dit toujours d'une manière extrêmement claire, extrêmement limpide, pour ne pas laisser la place au doute. Eh bien, c'est que, tout simplement, dans cette circonstance, et sur les conseils de sa maman, et c'est pour ça que le rôle de Rivka est très, très important, et que c'est elle qui va même en endosser la responsabilité, eh bien, Yaakov se permet, dans cette histoire-là, de s'arranger un petit peu avec cette vérité, mais ce ne sera pas sans conséquence. Jean, ce ne sera pas sans conséquence, et j'invite les auditrices et les auditeurs qui en ont la possibilité à lire notamment ce que nous en dit le Netzi de Volozhin dans son commentaire à Amek Davar, où il rappelle que le fait d'avoir dû, même une fois dans l'histoire, s'arranger un petit peu avec cette vérité va avoir des conséquences assez difficiles. Yaakov, qui a une petite jouissance, hein, même infime finalement, de la peine qui va être causée à Esav par la suite, va malheureusement voir bien cette peine se répercuter sur certains de ses descendants. Donc on voit que s'arranger finalement avec la réalité, même si à certains moments de l'histoire, pour le bien de l'histoire, cela a pu être toléré, c'est quelque chose d'explosif, et c'est quelque chose en tout cas à ne pas mettre entre les mains de tout le monde, et qui même entre les mains de Yaakov a eu certaines conséquences dans l'histoire du Calisraël.
Alors, quand on lit le texte, c'est la lecture que j'en ai eue, je ne peux pas croire un instant que Yitzhak n'était pas au courant ou ne savait pas qu'il était en train de venir Jacob. Ça, c'est un truc qui, ça me saute aux yeux. Est-ce que vous êtes comme moi ou pas, monsieur grand rabbin?
Tout à fait. Avoir une lecture du texte en pensant qu'on a ici affaire à un vieillard sénile, ou alors tout simplement par le fait qu'Essav était aveugle, et bien qu'il ne se soit pas rendu compte que Yaakov était devant lui, c'est une lecture un peu naïve. Et elle est d'autant plus naïve que dans le texte, nous verrons par la suite que Yitzhak lui-même se pose des questions, qu'il a des doutes. Et d'ailleurs, en principe, Jean, lorsque vous avez des doutes, bien vous vous arrêtez. Finalement, on ne voit pas quels sont les éléments dans le texte qui font qu'alors qu'Yitzhak vient d'exprimer un doute, hein, il dit « la voix est celle de Yaakov, mais les mains sont celles d'Esav ». Bon, si tu as un doute, alors dans ce cas-là, arrête-toi et prends le temps de vérifier. Ouais. Or, finalement, fort de ce doute, Yitzhak continue malgré tout à bénir Yaakov, bien sûr. Voilà, il comprend ce qui est en train de se passer, mais il comprend sans doute à ce moment-là que quelque chose lui a peut-être échappé, et dans une certaine forme de grandeur et de modestie, eh bien, Yitzhak comprend qu'il doit maintenant aller jusqu'au bout de cette bénédiction.
On dit que quand ils sont embrassés entre tous les deux, Yitzhak aurait senti le parfum du Gan Eden.
Voilà, tout à fait. Il y a des indices, il y a des éléments qui font prendre conscience au milieu de cette histoire, clairement, à Yitzhak, ce qui est en train de se tramer. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il décide d'aller jusqu'au bout de cette bénédiction.
Il me reste deux questions, une petite anecdotique et l'autre un peu plus sérieuse. Dans le chapitre 20, verset 12, il y a quelque chose de surprenant. Rivka dit à son fils Yaakov, « Je prends sur moi la malédiction. » Est-ce que c'est possible de prendre la malédiction pour quelqu'un d'autre?
Alors, il ne faut pas le comprendre forcément ici, littéralement. De toute façon, je pense, loin de Rivka et loin même de son fils Yaakov, d'imaginer la possibilité pour un personnage aussi grand qu'il traque, qu'il soit en mesure de maudire les enfants. J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'à la fin de la paracha, on le verra, aussi bien en ce qui concerne Yitzhak que Rivka, que le lien qu'ils vont entretenir chacun avec leurs enfants, aussi bien Yitzhak avec Yaakov, malgré le fait qu'il aurait pu lui reprocher de l'avoir berné, que Rivka, par rapport à Esav, qui va avoir des propos très très durs envers son frère Yaakov, qui menace de le tuer, eh bien, vont garder une grande proximité avec leurs deux enfants. Donc ses parents restent des parents exemplaires, qui manifestent un très très grand amour pour leurs enfants, et donc loin, à mon avis, pour Rivka, d'imaginer qu'il puisse y avoir une malédiction. Donc la problématique ne se pose pas en ces termes, mais simplement, lorsque Rivka s'exprime, eh bien, dire qu'elle en assumera les conséquences de ce choix et de ce geste.
Alors, dernière question, et elle revenait dans votre résumé, vous le disiez, comment c'est possible de comprendre que Yitzhak n'avait pas deux bénédictions, une pour ses deux fils, un pour Esav et une pour Yaakov, et qu'il n'avait finalement qu'une bénédiction? C'est difficile à comprendre quand on a plusieurs enfants, on met de côté autant de bénédictions qu'on a d'enfants, non?
Alors, vous le savez, la bénédiction qui était prévue pour Esav, c'était une bénédiction uniquement matériel, ce n'est pas une bénédiction a priori, en tout cas de estimer Yitzhak, dont avait besoin Yaakov pour grandir. Dans la vision qu'avait Yitzhak de ses enfants, Yaakov n'était pas à même tout simplement de recevoir cette bénédiction parce qu'elle ne pouvait pas lui apporter quelque chose de constructif dans son existence. D'où la volonté d'Yitzhak à ce moment-là d'accorder cette bénédiction à Esav de manière à ce qu'il puisse, et peut-être en ayant aussi tiré les conséquences du cheminement de chacun de ses enfants, qui, je l'avais dit au début de ce résumé, avait eu une éducation similaire, sur quoi le Rav Hirsch fait allusion dans son commentaire en disant que donner une éducation similaire à des enfants qui sont très différents de caractère n'est pas une bonne chose. Hanor Lanar Alpidarko, c'est un grand principe chez le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, éduquer son enfant en fonction de sa personnalité, de son caractère, et peut-être qu'il fera sans doute même qu'Yitzhak et Rivka aussi, à leur niveau, avaient tiré un petit peu les leçons de ce qui peut être considéré comme une erreur d'appréciation ou de jugement au début de leur vie. Et donc de vouloir donner cette bénédiction qui correspond à la personnalité d'Esav par Yitzhak, c'était peut-être aussi une volonté de rectifier un petit peu ce tir, qui donnait à chacun ce dont il a besoin.
Merci Monsieur Gourabin, vous serez avec nous la semaine prochaine?
En studio,
si Dieu veut. Merci à Lucas pour la réalisation technique. À vous tous et à vous toutes. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yudelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.